Le débat africain. Alain Foucault.
Elles ne sont pas majoritaires, c'est vrai, mais elles représentent la génération des femmes africaines ambitieuses, sans complexe et résolument décidées à briser le plafond de verre qui les confine au second rôle. Elles souhaitent parler d'elles de façon moins caricaturale et plus dynamique. Bonjour à tous et bienvenue dans notre série Femmes leaders d'Afrique qui est aujourd'hui à l'étape de Kinshasa en République démocratique du Congo. Avec sur ce plateau plusieurs personnalités, chefs d'entreprise et leaders d'opinion. D'abord, Madame Marie-Josée Ifoku, ancienne candidate à la présidentielle de 2018, ancienne gouverneure de la province de la Chuapa, province issue du démembrement de la grande province de l'Équateur. Elle est présidente de l'AENC, l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, son parti politique. Bonjour Madame Marie-Josée Okufu.
Bonjour Alain Foucault.
Seconde invitée de ce plateau, femme leader du Congo démocratique, Marie-Chantal Kaninda, la directrice exécutive de Glencore RDC, une des entreprises leaders mondiales de négoce, courtage et extraction de matières premières. Marie-Chantal Kaninda est aussi l'ancienne directrice du Conseil mondial du diamant. Oui. Bonjour Marie-Chantal Kaninda.
Bonjour Alain.
Notre troisième femme leader sur ce plateau, qui vit entre Tel Aviv et Kinshasa, juriste, spécialiste dans les questions de diplomatie et des mines, passionnée de politique, est Stéphanie Mbombo, initiatrice du mouvement panafricain Horizon 2060 et du parti politique Cercle des réformateurs intégrés du groupe CRIC. Bonjour Stéphanie Mbombo.
Bonjour Alain.
Quatrième invitée de ce plateau, Nicole Soulou, chef d'entreprise et initiatrice du réseau Makutano, qui est l'un des plus importants rendez-vous des entreprises africaines qui se tient chaque année ici à Kinshasa. Bonjour Nicole Soulou.
Bonjour Alain.
Alors, quatre femmes de tête, quatre femmes qu'on ne voit pas souvent sur les plateaux, mais qui agissent en réalité. Avez-vous le sentiment que l'image que l'on donne des femmes africaines est fausse ou elle est vraie? C'est-à-dire ces femmes qui sont toujours sous la douleur, qui souffrent sous des hommes qui ne sont pas très, très, très arrangeants. Marie-Josée?
Il y a du faux là-dedans. Moi, c'est que la femme dans la société africaine a un grand rôle à jouer, qui malheureusement est méconnue. La raison pour laquelle les gens pensent qu'elle est toujours, elle est en arrière-plan et qu'elle ne joue pas réellement un grand rôle. Le rôle qu'elle joue, en fin de compte, et qui est de, non seulement de prendre soin de la famille, mais aujourd'hui, elle est entrée pleinement dans l'économie, mais malheureusement informelle. Et c'est la raison pour laquelle on ne parle pas tant que d'elle. On a tendance à parler souvent des hommes, parce qu'il s'agit de pouvoir, et les hommes adorent le pouvoir.
Les femmes n'aiment pas le pouvoir?
Non, pas tant ça.
Elles ont
ça.
Un pouvoir un peu plus discret, non?
Oui, mais elles ont un autre centre d'intérêt, qui est un peu différent des hommes. Et c'est malheureusement un peu ça. Bon, moi, je suis une femme politique, et je ne cesse d'en parler à la jeunesse, et même aux femmes elles-mêmes, que le rôle que joue la femme naturellement, non seulement en tant que mère, mais en tant qu'assistante sociale, éducatrice et tout ce qu'on veut, démontre clairement que la femme a une place, elle devra avoir une place dans, non seulement dans la société, mais en politique, là où se prennent les grandes décisions.
Surtout qu'elles sont majoritaires.
En plus. Mais elle-même doit être consciente, justement, qu'elle doit pleinement jouer ce rôle-là, parce que ce que recherche la population africaine, c'est le social. Et c'est ce que fait la femme naturellement dans son quotidien. Mais malheureusement, comme elle n'est pas très éduquée et comme elle n'aime pas être trop vue, la preuve venait de le dire dès le début, que la femme, on ne nous voit pas trop dans les médias. On n'aime pas ça. On ne cherche pas à se vendre, on ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir. On cherche à apporter des solutions plutôt dans la société.
Oui, mais on a tendance à dire que c'est les hommes qui ne veulent pas vous céder la place, que si vous n'êtes pas dans les médias, c'est les hommes. Est-ce vrai? Est-ce une accusation gratuite, Stéphanie?
Je vais d'abord m'inscrire un peu en faux. Je suis d'accord avec ce que Madame Koufou a dit. Je dis que la femme n'est pas mieux éduquée. Elle est éduquée. Moi, je dis que je suis.
En termes de proportion.
Toute mon cursus à l'éducation, les femmes toujours majoritaires, que ce soit à l'université, à l'école primaire, à l'école maternelle, nous étions majoritaires à l'école. Mais quand on arrive dans le secteur public et on trouve qu'il n'y a pas des femmes. Moi, par exemple, j'ai quitté l'université pour les affaires étrangères tout de suite. Le lundi, j'étais aux affaires étrangères, conseil de mes affaires étrangères, et il n'y avait pas des femmes. Je me suis dit, mais elles sont où les femmes? Elles sont parties où? Donc, quelque part, il y a un système qui est mis en place qui favorise les hommes au détriment de la femme. Il faut vraiment le dire. Et c'est pas pour cette raison que la femme doit abandonner, comme madame l'a dit, qu'elle doit se valoriser.
Oui, mais comment expliquer que, et c'est vrai, quand on regarde dans les écoles, les femmes sont présentes, notamment ici en Afrique centrale. Elles sont majoritaires et elles sont même plus brillantes à l'école, généralement.
Elles sont les plus intelligentes.
Mais à quel moment on les perd en chemin, Marie-Chantal?
Je constate effectivement que la jeune femme africaine, à partir de 16, 17 ans, se perd un peu. Et je pense que c'est l'âge de l'adolescence réelle, c'est l'âge où elle se rend compte peut-être aussi de ses charmes et de ce qui peut...
De ses charmes.
Voilà, exactement. Mmh. Et je pense que c'est là que les parents doivent jouer leur rôle. Lui permettre effectivement de comprendre qu'elle devient une femme, elle est en pleine période de transformation, mais lui faire comprendre aussi qu'elle doit étudier, elle doit réussir dans sa vie. Et je pense que, en règle générale, c'est ce qui ne se passe pas assez. Donc je dirais qu'il y a ces compétences-là, mais il y a aussi l'accompagnement des parents qui doit être beaucoup plus important à partir de cet âge-là.
Pour vous, on les perd à partir de 16 ans, mais on les voit quand même dans les universités.
Je pense pas qu'on les perd.
Oui, on les voit dans les universités. Mais on en voit un peu moins, en fait. Mmh. Et on les voit, parce que moi je suis du secteur minier, minier. Et c'est vrai que vous verrez beaucoup moins de femmes géologues, vous verrez beaucoup plus de femmes dans certains départements que l'on appelle en anglais « soft skills ». Je ne trouve pas exactement le mot en français, mais
les ressources humaines.
Les sciences humaines.
Peut-être les sciences humaines.
Les sciences humaines.
Ce qui n'est pas mauvais, parce que je reste convaincue que on ne peut pas qu'avoir des techniciens. On doit avoir un mélange de tout.
Est-ce qu'il n'y a pas le poids de la tradition?
Moi, je crois qu'il y a, il y a l'aspect du mariage aussi qui compte.
Absolument.
C'est quand elle se marie. Et que la femme est butée à le fait qu'elle doit s'occuper de ses enfants et qu'elle se concentre sur sa famille et elle laisse un peu le professionnel. Parce qu'à l'université, elles sont là. Comme je dis, elles sont majoritaires. Mais quand elles arrivent avec le poids culturel du mariage, les femmes se concentrent à l'église et à leur mari.
À l'église.
Oui, je voudrais peut-être...
Nicole.
Je pense que je vais rattraper Stéphanie. Effectivement, il y a le poids de la société et de la culture qui nous rattrape. Parce que moi, je suis quand même fondatrice d'un réseau qui est mixte. On voit très peu de femmes, et pourtant des femmes qui ont des postes assez importants. Mais comme elles sont multitasks et qu'elles doivent gérer la famille, la société, l'entreprise, le peu de temps qui va rester va être au niveau de la famille, parce que la société voudrait voir quand même ce rôle de femme qui est tout à fait pris en compte. Donc il y a la société qui rattrape, et je pense que tout l'intérêt de ce débat, c'est de dire effectivement, il faudrait que ces femmes soient nourries par d'autres ambitions, qu'elles soient inspirées, qu'elles se disent que ça peut se faire. Effectivement, on peut gérer toutes ces choses-là. On peut avoir une carrière, on peut avoir des ambitions comme les hommes et arriver effectivement...
Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème d'ambition? Oui, Marie-Chantal.
Mais moi, je reviens parce que je pense qu'on passe directement à l'université. Mais l'université représente... Quel est le pourcentage de femmes qui vont à l'université? J'ai une fondation qui s'occupe de la jeune fille, et pas la jeune fille dans un milieu
urbain,
mais plutôt dans les milieux ruraux. Et je peux vous assurer qu'on les perd pas à l'âge de l'université, on les perd à 14-15 ans justement, parce que quelque part, très jeunes, elles comprennent qu'il faut que je commence à plaire. Certaines vous diront même qu'il ne faut pas être trop intelligent. Donc il y a cette notion de culture, en fait, qui fait qu'il faut absolument, pour ces jeunes filles, et c'est ce que faisait ma fondation d'ailleurs, c'est de pouvoir leur expliquer qu'on peut être intelligente, on peut être femme, on peut être intelligente se marier, on peut être intelligente mère, on peut être intelligente et réussir dans la vie.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi le poids du mariage dans les traditions africaines, un peu plus en Afrique de l'Ouest, mais ici aussi ça existe, où d'un coup l'objectif de la jeune fille, c'est trouver un mari, parce qu'on a sacralisé l'institution du mariage, Marie-Josée.
Non, mais c'est effectivement ça. Moi, j'ai vécu en province, j'ai été gouverneur à la Chiapa. C'est pour ça que je voudrais parler de la province. C'est là qu'il y a le plus de... où la population est plus... Et la jeune fille, on parle de 16 ans, non, 12 ans, 13 ans. Elle ne pense qu'au mariage. C'est même pas important qu'elle soit l'épouse officielle. Elles peuvent être à 4, 5, 6 épouses.
Même ici, en RDC?
Ah oui, surtout en province, comme je vous dis. Moi, je n'en revenais pas à les réalités que j'ai vues en province. Quand je suis parti là-bas comme gouverneur et je voulais imposer, pas imposer, mais mettre en exergue certaines lois pour protéger la jeune fille. Mm-hmm. Mais et les parents, et la jeune fille, et les hommes, tous se sont mis contre moi. De quoi je me mêlais, parce que c'était leur façon de vivre. Et elles avaient besoin de ces jeunes filles-là pour aider la famille. En réalité, c'est la misère aussi, c'est la pauvreté. C'est vrai que la culture joue un grand rôle. Mais la pauvreté aussi fait que les parents permettent que leur jeune fille de 12, 13, 14 ans puisse accéder déjà, pas nécessairement au mariage, mais avoir déjà des relations avec des hommes qui ont déjà des moyens pour pouvoir les entretenir.
Ouais. Nicole ?
Mais je veux encore une fois revenir sur le rôle des modèles. Parce qu'une fois qu'elles commencent à voir qu'on peut être marié, avoir une carrière, je pense que ça commence à bouger les lignes. Parce que, comme disait Marie-Chantal, on accompagne ces jeunes filles, on explique. Mais plus qu'expliquer, il faut des modèles. Il faut qu'elles voient que c'est possible.
Absolument.
Dans cette Afrique noire, aujourd'hui, il y a une Marie-Chantal qui est dans les mines, qui a un poste important. On a Stéphanie qui est en politique, en diplomatie. On a Marie-Josée qui a osé pousser les portes des politiques et qui est là et qui s'impose et qui fait son combat. Elles sont mariées, elles ont des familles, elles prennent soin de leurs enfants. Mais en plus de ça, elles font des choses extraordinaires. Et je pense vraiment que ces jeunes filles ont besoin de ça, comme disait Marie-Chantal. Il faut les accompagner, mais il faut donner des modèles. Il faut dire que l'Afrique bouge. Il y a des nouvelles représentations en Afrique, il y a des nouveaux schémas et qu'il faut bouger avec.
Aujourd'hui, très concrètement, dans vos expériences respectives, qu'est-ce qui a été le plus difficile à vaincre ?
Moi, j'ai commencé la politique à 18 ans. Je voulais déjà changer de choses à cet âge-là. Et maintenant, j'en ai 38 ans, ça fait 20 ans que je suis en tant que militaire en politique. Et j'ai commencé ma carrière aux affaires étrangères, quand même, qui est un ministère de souveraineté. J'ai eu à diriger à 22 ans 30 personnes. Je n'avais même pas droit à un bureau en tant que chef de département. Pourquoi ? Parce que les hommes avaient pris tout le bureau et que moi, la jeune femme, n'avais pas droit à un bureau.
Est-ce que ça venait du fait que vous étiez femme ou bien parce que vous étiez jeune ?
J'étais jeune et j'étais femme. Il fallait s'imposer.
Ah oui.
Il fallait s'imposer.
La double peine.
Je me suis imposée. Je finis par avoir un bureau et même pas un, deux, pour mon assistant. Ah. Et je me suis imposée. Mais il fallait le faire aux affaires étrangères.
Il faut se
battre. Parce qu'on nous dit qu'on n'a pas de place. Moi, je parle toujours aux femmes, même en politique. Ne venez pas vous soumettre au travail. Il ne faut pas oublier que nous avons la culture religieuse en nous, chrétienne, musulmane. On nous apprend à nous soumettre un peu aux hommes. Alors moi, je dis aux femmes, on faut se soumettre à son mari. À une seule personne, si vous épousez deux, oui, vous pouvez choisir. Mais si vous avez un mari...
Il ne faut pas commencer.
Je ne sais pas. Vous vous soumettez à votre mari. Et c'est lui, votre seigneur, vous vous agenouillez, tout ce que vous voulez. Vous sortez.
Carrément.
Nous sommes des égaux. Au travail, c'est votre collègue, qu'il soit ministre, qu'il soit président,
mais ça, c'est une autre
qu'il soit président,
africaine, hein.
Qu'il soit président
ça, africain,
de la République.
C'est ce que vous dites.
Voilà.
C'est-à-dire, d'un coup, il y a quand même la notion de soumission qui
soumission.
Semble acceptée par vous, même intellectuel.
Voilà, il ne faut, faut vraiment pas l'accepter. Donc, nous sommes des égaux et on parle en termes de collaborateurs, en termes de relations hiérarchiques de travail.
Oui. Mais à la maison, Marie-Chantal.
Mais moi, je pense que c'est intéressant. Hein, tu dis, mais Stéphanie dit, mais je pense qu'il y a un côté déjà qui, moi, me choque un petit peu. Et parfois, ça vient même de nous, les femmes. On parle directement du mariage, on parle des enfants. Et qu'est-ce qui arrive à toutes ces femmes qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants? N'ont-elles pas le droit de réussir? Et moi, je me dis qu'on doit réussir en tant que personne. Je veux dire, on peut être marié, c'est parfois même intéressant d'être dans des débats, des conférences, et parfois, vous entendez des jeunes femmes vous demander, est-ce que vous êtes mariée? Est-ce que vous avez des enfants? Comme si, en fait...
La sacralisation du mariage.
Oui, c'est un peu, c'est encore plus difficile. Mais moi, je dirais, je le dis toujours, mariez-vous bien. Et ça ne sera pas un problème de réussir votre carrière. D'accord ? Normalement, je crois qu'on doit choisir un mari à la hauteur de ses aspirations et de ses ambitions. Et
ça, c'est pas lui qui vous choisit.
Non, mais je crois qu'on se choisit mutuellement. Donc je pense que ça doit déjà partir de là. Et ensuite, ça n'emmène pas un frein. Parce que c'est vrai que quand votre mari est un frein pour à votre épanouissement professionnel, vous avez un problème. Alors que normalement, la famille, le mari, les enfants, quand vous en avez, doivent être là pour vous soutenir. Et d'autres, ce ne sont pas les maris, les enfants, mais les parents,
les frères.
Donc, je pense que déjà, arrêtons de nous limiter. Parce que quand un homme réussit, on ne lui demande pas s'il est marié, s'il a des enfants.
De temps en temps, quand même.
Quand vous aspirez
à un certain poste, on vous dit, est-ce que vous êtes marié?
Oui, mais c'est une question normale. Mais je veux dire, on ne devrait pas... Oui, il ne faut pas limiter, en fait, la réussite avec le mariage et les enfants.
Alors, les conceptions sont quand même assez différentes d'un endroit à un autre. J'ai entendu un terme, et on va revenir à ce que vous disiez, le terme soumission. Généralement, quand il y a débat homme-femme en Afrique, il y a beaucoup ce terme de soumission. Là, à l'instant, Stéphanie disait, oui, je suis soumise à mon mari. C'est un modèle africain, Marie-Josée?
Oui, un modèle africain, ce sont nos traditions, mais c'est plus, moi je parlerai par rapport à moi, plus la religion.
Parce la religion.
Que, pas trop tradition nécessairement. Quand on embrasse,
qui sont des religions importées. Hein?
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, ça, chacun a développé sa foi et on y croit. Le problème, c'est qu'on y croit, mordicus, donc on a fini par accepter.
Il faut
que...
se soumettre.
Oui, on
et vous avez cette relation de soumission dans le dans
non,
le, vos couples
respectifs.
Mais moi, je voudrais quand même revenir sur cet aspect religieux de la soumission. Moi, je suis chrétienne et on dit que dans la Bible, on vous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Marie. Mais ça ne s'arrête pas là. On dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église.
Ça, c'est pour les chrétiens, oui.
Oui, oui, mais Christ est allé jusqu'à mourir pour son Église. Oui. Donc, en fait, ça veut dire que c'est un modèle de soumission dans un amour
réciproque.
Vous comprenez donc, alors, ne prenez pas le terme soumission comme... tout simplement la personne qui accepte tout. Et
mais quand
voilà.
J'ai écouté Stéphanie, c'était presque ça. Hein. Mais
non, non, c'est pour ça que j'ai peut-être juste remis le contexte.
Mais c'est ça qui crée aussi quand même le problème, parce que le fait que la jeune fille sait qu'elle doit être soumise à son mari, dans sa tête, elle comprend à tous les hommes. Et moi, je l'ai vu en milieu de travail. Voilà. Je l'ai vu dans le milieu professionnel.
Effectivement.
Comment les hommes traitaient les femmes, et elles devaient être soumises à leur chef aussi. Et ça crée un réel problème, parce que les femmes n'arrivent pas à faire la part des choses. Et c'est vrai que vous puissiez trouver ça choquant, de la part des femmes comme nous, des femmes quand même qui se battent dans la société, une certaine personnalité, une certaine carrure qui parle aussi de soumission, et ça peut être dérangeant, c'est vrai.
Dans vos expériences respectives, qu'est-ce qui vous a permis à un moment donné comme ça de décoller par rapport aux autres femmes dans cet environnement que vous décrivez hostile? Marie Chantal, comment on retrouve une femme comme vous à la tête d'une structure qui est une structure internationale, mondiale?
C'est vrai que j'ai commencé, mon rêve était d'être banquière, hein, donc je me suis retrouvée dans le secteur minier un peu par hasard, et je ne l'ai plus quitté. Mais je dois dire que dans ma carrière, j'ai eu à travailler avec des personnes et des hommes, en fait, qui étaient tout à fait tolérants.
Ils ne sont pas tous des salauds, c'est ça?
Oui, non, parce que je pense que de toute façon, pour faire de la société un environnement agréable pour tous, il faut un mélange de tous. Hein. Donc, j'ai eu à rencontrer certains hommes qui m'ont donné des belles opportunités de développement dans ma carrière. Et c'est vrai que c'est triste à dire, mais c'était très peu d'hommes africains, en fait. Hein. Ça a été plutôt souvent
cliché, l'Africain, macho,
Mais je peux même vous donner un exemple. Et, quand je suis rentrée dans le secteur minier, ensuite j'ai été dans une structure de l'exploration. Donc tout se passait sur terrain. Donc je sais pas, l'exploration c'est beaucoup
pas dans
plus
les bureaux,
dur. Hein, voilà. Ça a son côté sexy aussi. Mais je veux dire, tout se passait sur site avec des petits projets où vous dormez sous des tentes. Moi, c'est vrai que j'étais ici à Kinshasa. Et quand j'échangeais avec mes collaborateurs géologues, mais je peux vous dire que personne ne faisait vraiment attention à ce que je disais. Pourquoi ? Parce qu'ils se disaient qu'elle est à Kinshasa, dans ses beaux bureaux. Nous, nous sommes sur site, nous dormons sous des tentes, nous travaillons, par exemple. Donc, qu'est-ce que j'ai eu à faire ? J'ai eu à aller passer du temps sur terrain avec eux, en fait. Et c'est vrai que j'ai eu une fois ma tente complètement mouillée parce que je ne savais pas qu'il fallait la fermer avant d'aller dîner. Entre-temps, la pluie s'est abattue.
Parce qu'il n'y avait pas un homme pour vous fermer votre tente, c'est
non.
ça
Non, non, mais c'est pour vous dire, en fait. En fait, je devais gagner en fait le respect de ces personnes-là. Et je pense que dans la vie, en tant que femme, nous ne devons pas toujours rechercher que notre confort de femme et chercher à se faire apprécier par les hommes tout simplement parce que nous sommes des femmes. Mais quelque part, nous devons aussi nous battre pour nous faire respecter. Et je peux vous dire que tous ces géologues, après que j'ai eu à passer le temps qu'il fallait avec de l'eau qui arrivait au-dessus des genoux, les bottes complètement mouillées, aller faire du tamisage.
Vous imaginez mal dans cette situation.
Non, et pourtant, j'y suis arrivée, du tamisage et tout ce que vous voulez. Mais je peux vous dire que après cette expérience, le fait d'avoir passé du temps avec eux, qu'ils ont compris que je les comprenais, je peux vous dire que notre relation après a été complètement différente.
Se faire respecter sur le terrain, se mettre dans les mêmes conditions. Dans le domaine politique, doit-on avoir la même démarche pour être accepté par les hommes? On en parle dans une dizaine de minutes dans la seconde partie du débat africain spécial Femme leader de RDC. On se retrouve donc juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Restez à l'écoute et à très vite.
Thank you. Le débat africain. Alain Foucault.
Elles sont vraiment aux antipodes des modèles traditionnellement présentés par les médias internationaux lorsque l'on parle de la femme africaine. Elles sont chefs d'entreprise, leaders d'opinion, politiques, scientifiques. Elles se sont fait une place de choix dans un monde dominé par la gente masculine. Ce sont des femmes leaders. Comment ont-elles fait pour briser le plafond de verre? Sont-elles réellement des exceptions? Bonjour et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche dans notre série « Femmes leaders d'Afrique » à celle de RDC, la République démocratique du Congo. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord Marie-Chantal Kaninda, directrice exécutive de Glencore RDC, ancienne directrice du Conseil mondial du diamant. Ensuite Stéphanie Mbombo, initiatrice du mouvement panafricain Horizon 2060 et du parti politique Cercle des réformateurs intègres du Congo, le GREC. Notre troisième invitée est Marie-Josée Ifoku, ancienne candidate à la présidentielle de 2008 ici au Congo, ancienne gouverneure de la province de la Tchouapa, présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, l'AENC. Notre dernière invitée, la quatrième et pas des moindres, est Nicole Soulou, chef d'entreprise et initiatrice du réseau Makutano. Voilà pour nos invités. Alors là, je me tourne vers la politique. Celle qui a été gouverneure, il y a plusieurs politiques ici, mais celle qui a été gouverneure dans son environnement. On dit qu'en politique, ils sont beaucoup plus durs. Et c'est vrai qu'en termes de nombre, lorsqu'on regarde dans les assemblées, il y a peu de femmes. Comment vous y êtes arrivé, vous ?
Il y a beaucoup à dire, mais si je dois parler rapidement, je suis une femme de terrain. Je ne suis pas le genre de femme qui aime rester au bureau, travailler. Non, moi, je vais
sur le terrain. À la rencontre des gens.
Exactement. J'étais dans la vente de l'automobile jusqu'à devenir directeur général. Et j'ai fait mes preuves pour y arriver. Ce n'était pas en restant dans mon bureau. Et donc, bref, quand j'ai pris la décision d'aller comme candidate gouverneur chez moi, que je ne connaissais pas non plus, donc c'était vraiment aussi un challenge. J'ai posé ma candidature tout simplement, et puis bon, pour mille et une raisons, il n'y a pas eu élection, c'est notre histoire, le Congo. Il fallait nommer des femmes, et j'étais la seule femme candidate à la Tchouapa, et c'est comme ça que j'ai été cooptée par le gouvernement de l'époque. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai toujours su que l'État congolais n'existait quasiment pas, que c'était du folklore pour moi. Et quand je suis arrivée à l'intérieur, enfin en province, j'étais choquée. J'étais choquée parce que je trouvais que État voulait dire tracasserie pour le peuple. Et donc, arrivé
puisqu'il n'y a pas de service qui soit rendu au peuple.
Rien. C'est vraiment de la tracasserie permanente. Leur poule est prise par tout le monde.
En fait, par
tout
le monde, gendarme du coin.
Tout le monde abuse du peuple et c'était incroyable. Alors, imaginez, vous venez avec une culture d'ailleurs et vous voulez imposer votre culture, mais tout le monde vous combat. Alors moi, je n'ai pas peur de l'homme. Je n'ai pas un problème avec ma féminité. C'est pas un problème. Pour moi, je suis un être humain et j'ai des êtres humains en face de moi. Donc, je me vois pas femme. C'est ça qui m'a beaucoup aidé dans mon combat où je me suis imposée. Et chez nous, là-bas, à la Tchouapa, tout le monde parle de moi jusqu'à aujourd'hui. C'est embêtant de parler de soi, mais c'est une réalité parce que j'ai emmené une autre façon de faire les choses. Un certain salaire, quand le gouverneur est tombé, que c'est moi qui assumais l'intérim, ben, j'ai baissé mon salaire de moitié, quasiment. Alors, les gens, déjà, ne sont pas habitués à ça. Donc, moi, ce que je voudrais dire, il faut être un exemple. Il faut être un modèle. Et si je peux ajouter quelque chose par rapport au leadership féminin africain, moi, je trouve que nous, les femmes, aujourd'hui, nous sommes cette transition-là qui doit emmener le pays vers le développement. Pourquoi ? Les hommes ont été habitués, la politique est habituée à un monde de compétition, un monde de muscles et le pouvoir pour le pouvoir, tout simplement parce qu'ils ont pris
et
un modèle.
Corruption.
Oui, le modèle un peu colon au départ, parce que c'est qu'ils ont connu la force, la brutalité.
Commandant du cercle.
Oui, et moi je parle toujours de la rupture du système de prédation. Et qui peut nous conduire à cette rupture de système de prédation ? C'est la femme. Parce que la femme qui au départ est une victime de ce système-là, mais en même temps, ça l'a rendue responsable parce qu'elle a dû s'occuper de ses enfants, être réaliste. Elle n'a pas eu le temps de réfléchir. Elle s'est engagée à travailler, mais à travailler avec amour, avec un oubli de soi. Et c'est cette femme-là aujourd'hui, selon moi, qui devait être la transition, qui doit emmener l'Afrique vers le développement.
Je voyais Nicole qui voulait réagir.
Mais je voulais absolument rejoindre Marie-Josée parce qu'effectivement, c'est là où la place du leadership féminin prend toute sa place. Qui fait que finalement, qui est moins agressif, moins en compétition, on est moins dans une cour de coq où on regarde qui a les plus belles plumes, qui chante le plus haut. C'est vraiment, je pense qu'on s'oublie un petit peu pour voir les objectifs communs à atteindre. On se dépasse, on arrive à transcender ça, je pense, plus facilement qu'un homme, en disant, voilà, est-ce qu'on peut essayer ensemble d'atteindre ces objectifs-là, que ce soit au niveau du pays, que ce soit au niveau des batailles communes, au niveau de la société, est-ce qu'ensemble, on peut arriver à réaliser quelque chose ? Je pense que c'est une invitation qui vient beaucoup plus de la femme que de l'homme, qui est tout le temps en compétition, je vois que Marie-Chantal.
Exactement, je suis tout à fait d'accord, parce qu'il y a des études qui ont été faites. dans le secteur minier, par exemple, où on s'est rendu compte que quand on emmenait des femmes dans des conseils d'administration, tout d'abord, il y avait de nouvelles idées qui naissaient. Il y avait beaucoup moins de bagarres et de challenges qui ne devaient pas en être. On se rend même compte que lorsqu'une femme, parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'entreprise pour laquelle je travaille, vous avez une jeune dame qui conduit les tout gros camions là, oui, que vous voyez. Et c'est une dame qui, en fait, n'a pas fait d'études pour cela, mais qui, parce qu'elle s'est retrouvée mère seule, a appris à conduire. Ensuite, elle est entrée dans la société, elle a appris à conduire ces engins-là. Et aujourd'hui, elle le fait très bien. Mais vous savez que la plupart de ces femmes qui ont ces engins en responsabilité les traitent beaucoup mieux que tous les conducteurs hommes, par exemple. Donc, il y a cet aspect de responsabilité, en fait, de respect de la chose que la femme apporte.
Ce sont les atouts,
Exactement. Et alors, je pense qu'on doit en tenir compte. Alors, vouloir écarter la femme, en fait, pour ne laisser que des hommes dans une salle, en règle générale, on rate quelque chose.
Stéphanie ?
Oui, vous avez posé la première question, c'était de savoir qu'est-ce qui nous a poussé, nous, à briser la glace. En fait, c'est comme ça que je veux répondre à ça, que moi, depuis que j'étais petite, je voyais mon pays, le Congo, comme une maison en briques. Une maison en briques avec plein de trous. Et qu'il y a un trou qui ne va jamais se boucher si moi, Stéphanie Mbombo, je ne mets pas ma pierre. Et c'est comme ça que les femmes doivent réaliser leur parcours sur Terre. De croire qu'elles sont en elles-mêmes une valeur ajoutée. Et dit, voilà, si moi je ne fais pas ceci, personne ne le fera à ma place, parce que chacun de nous a une mission sur Terre à remplir. Voilà pourquoi nous avons brisé la glace, aussi par effet d'ambition. Moi, je crois que j'ai grandi dans un milieu politique déjà. Mon père l'était. Déjà à 14 ans, je disais à mon père que je veux faire la politique. Et on me disait que non, toi et ton caractère et la politique, ça ne va jamais marcher. Parce que les femmes, la plupart des femmes, je ne dis pas, mais ont tendance à être intègres. Intègres, vrais et francs.
Vous n'êtes pas intègres.
Moi, je suis intègre, je suis vrai.
Non, mais vous avez intègre là-dessus d'un mot.
Donc, nous nous sommes. Et c'est difficile dans un monde de plein de compromis. De plein de compromis et des mensonges pour qu'une femme perce aussi. C'est là parce qu'elle ne veut pas se compromettre trop à un certain niveau, elle s'arrête.
Et là, je veux
venir, c'est que ce qui a qualifié la politique, je suis désolée, il faut qu'on se dise, ce qui a qualifié la politique depuis 48 ans de notre pays, c'était les femmes qui devaient sortir avec pour être là.
Justement, je voulais qu'on évoque ça, la promotion canapé.
Oui, quand vous ne voulez pas sortir de ça, moi déjà, dès l'université, moi, j'ai fait une pièce de théâtre pour dire non au point sexuellement transmissible.
Oui.
Déjà, à l'université, qu'il faut se battre pour les promotions, les points de sexe, et venir au milieu professionnel, les professions de sexe. Et quand vous voulez être droite, on vous met devant quatre murs. On vous dit, voilà, vous faites ça ou vous ne faites pas ça, vous vous retirez. Mais ce n'est pas ça, c'est jamais blanc ou noir.
Mais le problème, c'est
qu'il faut se battre en étant intègre, en restant ferme, et dire, voilà, je suis ferme. Et ces hommes, ils comprennent. Ils savent qui sont les femmes canapées et qui sont les femmes qui restent droites.
Hein. Il y a des femmes qui anticipent là-dessus la question.
Oui.
Marie-Chantal.
Moi, je dirais que c'est vrai que dans le secteur privé dans lequel j'ai eu à évoluer, ça a été légèrement différent. C'est vrai qu'il y a aussi certaines choses qui se passent, mais très rapidement, on met toutes les barrières qu'il faut pour une certaine protection, je dis bien une certaine protection de la femme. Et moi, je dirais que j'ai plutôt évolué dans un monde international où je pense qu'il y avait un double désavantage. Être femme et être noire. Parce qu'on n'en parle pas souvent. Je pense que vous devez à chaque fois prouver trois fois plus en fait, que vous êtes une personne tout à fait
compétente.
Ouais. C'est vrai que je serais femme, mais peut-être de type caucasienne.
Voilà.
Je veux dire, on m'accorde immédiatement certains bénéfices du doute. Mmh. Mais vous arrivez, vous êtes femme, noire. Et parfois en Afrique, je dirais même, vous arrivez, vous êtes femme congolaise. Parce que la congolaise a aussi une certaine réputation en Afrique. Et vous devez toujours, en fait, prouver trois fois plus que vous êtes une personne tout à fait compétente. Donc, moi, les promotions canapé-lit, je n'ai pas été trop
confrontée
à cela, mais j'ai plutôt été confrontée à ce côté beaucoup plus dur par rapport
Beaucoup plus violent,
au côté.
Que tous les deux sont violents, parce que la promotion canapé
aussi. Au côté racial. Mais ceci ceci dit, parce qu'on est là pour parler de leadership, mais ça ne m'a pas empêché d'évoluer, en fait. D'évoluer dans des structures les unes plus importantes que les autres. Et c'est vrai que quand, par exemple, j'ai été prise au Conseil mondial du diamant, première femme, première africaine à y être prise à ce poste-là, bah, ce qui était assez étonnant, c'est que ce sont surtout, en fait, les Africains qui vous demandent, en fait, qu'est-ce que vous avez fait pour y arriver?
Avec qui? Alors, vous avez certains, couché?
Peut-être pas couché, parce qu'on se dit qu'à ce niveau-là, peut-être pas, mais ce sont les Africains qui vous demandent, en fait, pourquoi est-ce qu'on t'a prise? Donc, ils ne s'imaginent même pas que vous avez eu à compétir avec des personnes qui viennent de partout dans le monde et que vous avez été retenue.
Alain, je peux compléter Marie-Chantal parce que on parle souvent de la promotion canapé, mais on oublie souvent les conséquences de cette promotion canapé. Parce qu'en fait, ça devient un problème quand les incompétentes prennent la place des compétentes. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense que la société s'effondre. Mais je veux rattraper encore Stéphanie qui disait tout à l'heure pourquoi elle a fait ces choses, comment elle arrive à le faire. Et je voudrais revenir sur le fait que les jeunes filles qui nous regardent peut-être, effectivement, doivent se mettre en tête que l'Afrique répond quand on ose faire des choses. Parce que moi, j'ai osé faire quelque chose et l'Afrique m'a répondu. J'ai oublié effectivement que j'étais dans un monde noir, d'hommes, qui a le poids de la culture. Finalement, je lui dis, on va essayer de les inviter, de les mettre autour de la table. On va mettre ces hommes autour de la table. Ces hommes ont dit oui, ils sont venus faire ce débat, sont venus faire ce travail. Donc parfois, on est notre propre barrière. Il faut oser faire les choses et ne pas s'arrêter. Oublier les schémas, je reviens toujours aux représentations qu'on a ou que la jeune fille a de cette Afrique ou de cette société.
Oui, parce que,
il faut arriver à franchir ça, mais c'est d'abord un travail que chacun doit faire, que cette femme doit faire, en se disant, effectivement, c'est possible dans cette Afrique de faire des choses, c'est possible de faire ça comme à New York, comme à Barcelone, comme à Paris, mais il faut
est-ce
d'abord...
Pas, est-ce qu'il n'y a pas un problème de médias au départ, où vous êtes moins présente, parce que quand on regarde toutes ces jeunes filles, leurs modèles ne sont jamais africaines.
Ah bah c'est sûr.
Oui. Jamais africaine.
Mais je crois que c'est parce que la femme africaine elle-même ne se valorise pas, comme l'avait dit madame la candidate à la présidente, de madame Marie Foucault, que la femme africaine elle-même ne se valorise pas. Elle n'ose pas sortir de son carcan pour aller vers le média.
Je pense que celles qui réussissent.
Donc, celles qui réussissent aussi, elles sont trop occupées à réussir plutôt que de vendre, de devenir le modèle pour ceux qui cherchent à devenir quelque chose. Donc, c'est ça. C'est un problème des médias.
J'atténue légèrement parce que quand je regarde la femme sud-africaine, je regarde la femme nigériane, je regarde la femme sénégalaise, elles savent se vendre, elles se vendent, et on les voit et on les entend. Mais je pense qu'il y a un problème avec la femme francophone qui a tendance effectivement à se mettre en arrière-plan. Ce que j'essaye juste de dire, c'est qu'il y a l'intérêt qui doit aussi être présent. Les filles, elles vont sur Facebook, elles vont sur WhatsApp. Aujourd'hui, les médias, ce n'est pas que
la télévision. Dans le salon.
Mais quel est l'intérêt, en fait? Et sur ce sur quoi je reviens, elles doivent pouvoir se dire que je veux qui est mon modèle. Moi, je ne suis pas en politique aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'en RDC, en fait, on préfère...
Ah, les top 3 seront des femmes politiques.
Ça
ou bien
sera
des
toujours
politiques.
Des femmes politiques.
Ah oui, c'est sûr.
Parler de personnes qui ne sont pas nécessairement...
C'est les seuls qui acceptent
régulièrement
d'aller sur les médias.
C'est-à-dire
que je pense que quand vous leur proposez d'aller sur les médias, elles sont plus promptes à aller sur les médias que les techniciennes.
Non, non,
parce que dès que c'est les techniciennes, elles se disent « Ah, moi, je suis dans mon laboratoire. »
Il y a un problème. Quel est le problème quand on demande qu'est-ce qu'elle fait Marie-Chantal Canida? Elle est dans les mines. Pour certains, c'est juste peut-être trop compliqué. C'est peut-être la nébuleuse. C'est peut-être un milieu.
Oui, mais c'est parce que la politique prend toute la place au Congo. C'est pas juste une histoire de femmes. Même les hommes, on n'entend pas trop parler dans l'entreprise privée.
Oui,
mais la politique a pris toute la place dans la vie.
J'explique tout simplement qu'en fait, il faudrait ouvrir en fait les modèles, en fait, parce que tout le monde ne peut pas.
Absolument.
Tout le monde ne peut pas faire de la politique. Tout le monde ne peut pas faire. Ne peut pas être dans les mines, mais il faut.
C'est vous qui ne vous vendez pas assez. Et que vous n'avez pas le souci, peut-être, certes vous êtes des mamans, certes vous êtes des grandes sœurs, des femmes, Peut-être que vous oubliez de temps en temps que ces enfants que vous élevez ont besoin de modèles. Vous devez être leur modèle.
Non, mais
de temps
je te
en
rejoins,
temps.
Alain. Je vais rejoindre Alain parce qu'effectivement, c'est une question de responsabilité. Moi, j'ai du mal, justement, avec toutes les lumières, à venir débattre, à venir. Mais à un moment donné, on s'est dit oui, on le doit aux autres, effectivement. Comme on a fait l'introduction de ce débat, on le doit à ces jeunes filles qui nous regardent. On doit montrer, effectivement, que dans cette Afrique, je reviens toujours dessus, il y a des nouveaux modèles de femmes, il y a un leadership féminin qui est là, il y a des femmes qui font les choses. Et effectivement, quand on sort des politiques, c'est très difficile de les attirer. Mais c'est tout un travail à faire. Je pense effectivement
un
travail de responsabilité des deux côtés et certainement des médias, je suis sûre.
C'est vraiment une politique d'entrepreneuriat qui nous manque au Congo. Moi, je crois que le parti politique que je gère, CRIC, par exemple, l'entrepreneuriat est notre pilier principal. Pourquoi ? Et nous arrivons à dire aux jeunes que tout le monde n'est pas appelé à être politicien dans un, vous êtes militant d'un parti, vous n'êtes pas appelé à être candidat député ou à travailler dans un cabinet
ministériel. Mais on le dit où?
Donc, vous pouvez créer vos projets et le parti, mais dans nos auditoires, dans le média que nous faisons.
Mais même si
dans les dessins,
Stéphanie, même
terrain.
Si on le dirait,
donc on leur dit
qu'il y a une réalité qui est là, les gens puissants, les gens riches, c'est les politiciens.
Mais
donc,
même si on tient le,
on est d'accord avec toi. C'est ici,
oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est ça la réalité. Donc, tous les jeunes rêvent de devenir politiciens parce que c'est là où il y a l'argent.
Mais on revient toujours au modèle d'autres modèle de réussite en dehors de la politique, qu'il y a des gens qui réussissent en Afrique, des Africains, des Congolais qui réussissent,
il y a des scientifiques
et qui font de l'argent, et qui font des millions, parce que tout le monde est intéressé à faire des millions, et qui font des millions sans être en politique.
De manière très honnête.
Il faut renverser la tendance, les pyramides ici au Congo. Il faudrait que les hommes d'affaires, les entrepreneurs soutiennent le politique, et non pas le contraire. Il faut que les gens changent leur approche.
Je voudrais rajouter...
Parce que c'est l'économie, pardon, l'entrepreneuriat, c'est les PME, et c'est les PME qui soutiennent un pays.
Ceux qui gagnent de l'argent dans le privé ne veulent pas non plus s'exposer. Parce que le fait de s'exposer, ça veut dire qu'ils doivent prendre en charge des milliers de gens, mais payer les taxes aussi. Alors, c'est la raison peut-être pour laquelle ils se cachent derrière ça. Et les politiques
ont payé les taxes.
Il y a juste un problème de
modèle. Moi, je voudrais peut-être rajouter, et je parle à l'aise parce que ça fait 25 ans que je travaille et 25 ans que je paye mes
impôts.
Et je peux vous dire que je paye peut-être beaucoup, j'ai payé beaucoup plus que certains autres qui n'ont jamais eu à payer même un impôt. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que au-delà de ce que nous pouvons faire, c'est quelle est ma responsabilité vis-à-vis de la population. Je fais partie de ceux qui pensent en fait qu'il faut toujours remettre quelque chose à la population. Et aujourd'hui, qu'est-ce que moi je peux faire pour remettre? C'est toutes ces activités sociales que je fais au travers de ma fondation. Et je reviens toujours, je l'ai fait ici à Kinshasa, je l'ai fait peut-être à l'intérieur du pays aussi. Mais vous savez, rencontrer parfois des jeunes gens, venir vers vous. Ah, c'est vous, tel. Ah, je vous suis. Sur Twitter, je vous suis sur Facebook, j'aimerais vous rencontrer, j'aimerais... Et c'est vrai que parfois on peut se dire que je n'ai pas le temps, mais je prends le temps de répondre aux messages, je prends le temps de passer du temps au téléphone avec certaines personnes parce qu'on peut pas toujours les rencontrer. Mais je pense que c'est ça aussi le rôle d'un leader,
c'est de
s'occuper des autres.
Comme le temps tourne vite, ce pays souffre depuis 60 ans de la politique menée par les hommes. Est-ce que... Là, je me tourne vers Marie-Josée. Vous pensez qu'un jour, il peut y avoir une femme présidente dans ce pays? Je sais que vous avez tenté l'aventure. Vous y croyez?
Oui.
Sans argent, sans...
Non, sans argent, c'est impossible, mais on peut aussi trouver les moyens de le faire. Non, mais j'y crois parce que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes la solution au problème de Congolais. Les femmes, nous sommes cette solution-là. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes cette transition pour nous emmener vers un réel développement, puisqu'il faut rompre avec le système de prédation. Et c'est ce système de prédation...
Est-ce que les hommes sont prêts à voter pour Marie-Josée, par exemple?
Aujourd'hui, définitivement, j'y crois.
Vous y croyez?
Définitivement, j'y crois, parce qu'ils ont vu que le leadership masculin a failli.
Et est-ce que les femmes viennent vers vous, vous qui faites de la politique?
Absolument, les femmes viennent vers nous. Il y a un changement de mentalité, il y a un shift extraordinaire des femmes qu'on doit saisir maintenant. Il y a des femmes qualifiées qui vont venir en politique, mais maintenant, il y a un problème aussi des cultures.
Malheureusement, on ne va pas repartir là-dessus, puisque nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que vous avez inspiré quelques filles qui doivent voir qu'il y a des femmes au Congo qui occupent des places importantes, qui ont des fonctions importantes dans le domaine des sciences, dans le domaine technique comme le vôtre, dans le domaine politique, dans le domaine de l'économie. On espère que vous les avez inspirées et que dans le domaine de l'éducation aussi, elles seront inspirées. Merci en tout cas d'avoir accepté de participer à ce magazine. Delphine Michaud, Olivier Raoul, Kouli Alain Foka. Nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Tout à l'heure sur